Retrouvez en exclusivité sur NVS Radio un acteur économique de notre territoire. Les rendez-vous de l'économie du territoire, c'est tous les mardis à 19h sur NVS Radio.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les rendez-vous de l'économie du territoire. Nous avons rendez-vous cette semaine avec Jérôme Moreau, qui est directeur de plusieurs établissements médico-sociaux d'APF France Handicap. Bonjour Jérôme.
Bonjour.
Merci d'être notre invité aujourd'hui.
Je vous en prie.
Alors, vous dirigez en tout 8 établissements
et services.
Et services sur la Nièvre.
Alors voilà, sur la Nièvre. Donc, je dirige un foyer d'accueil médicalisé pour personnes adultes en situation de handicap moteur. Avec deux grandes composantes, des personnes qui sont touchées par une lésion cérébrale, donc consécutivement à une chute, consécutivement à un accident vasculaire cérébral, à une hémiplégie. Et puis de l'autre côté, je dirige pour 20 personnes le service pour des personnes qui sont touchées par un handicap moteur acquis, que ce soit une amputation, une maladie neuroévolutive. Et dans ce cadre-là, nous sommes référents nationaux sur les personnes touchées par la maladie de Huntington, qui est une maladie neurodégénérative, mais qui est une maladie rare. Donc on est dans cette référence des personnes qui nationalement sont reconnues comme telles. Et puis à côté de cela, nous avons des services qui vont à domicile, c'est-à-dire là où vivent les gens, que ce soit en foyer de vie. Et donc nous portons une équipe mobile de soins. Nous avons également deux services d'accompagnement à domicile, que ce soit un service d'accompagnement plutôt sur les activités et sur les droits, et de l'autre côté le même service avec un volet soins, donc qu'on appelle le SAVS, service d'accompagnement à la vie sociale, ou qu'on appelle le SAMSA. Ce sont des barbarismes, mais c'est comme ça, service médico-social pour adultes handicapés. Donc voilà. Et puis de l'autre côté, je porte un accueil de jour pour personnes en situation de handicap, un accueil de jour pour personnes âgées désormais, et puis une maison de retraite, celle d'un fille, l'EHPAD Pierre Bert et Gauvois, 69 résidents, et puis un SIAD sur le même secteur.
Ben, ça fait beaucoup tout ça.
Alors ça fait beaucoup, mais j'ai des équipes.
Vous n'êtes pas tout seul.
Non.
Alors combien de personnes en situation de handicap ou âgées bénéficient des services que vous proposez?
Alors sur le foyer d'accueil médicalisé, nous sommes 40, plus une personne qui peut venir en accueil temporaire, donc c'est-à-dire des personnes qui tournent. Oui. Sur les services d'accompagnement à domicile, 45. Sur l'équipe mobile de foyer de soins en foyer de vie, 300. Donc ça fait beaucoup de personnes accompagnées, mais c'est pas forcément les mêmes accompagnements, mais en tout cas ce sont des accompagnements renforcés en matière de soins pour aider les équipes qui n'en ont pas. Et puis sur les accueils de jour 6 et 4, personnes âgées, personnes en situation de handicap, et puis à l'EHPAD 69 résidents,
oui.
Et puis sur le SIAD.
Oui, ça commence à faire beaucoup de personnes accompagnées. Ouais. Alors vous me disiez, je ne suis pas tout seul.
Non.
Et alors combien êtes-vous à faire tout cela?
Nous sommes à peu près entre 150 et 170 salariés. Ça dépend un peu des intérims et puis des forces humaines dont on a besoin. Donc une centaine sur le monde du handicap et puis 60 à 70 sur le monde des personnes âgées, qui sont des équipes pluridisciplinaires, et ça j'y tiens vraiment. Donc ça va des agents de maintenance en passant par le personnel d'entretien et de ménage, ça va vers des animateurs qui vont proposer des activités au quotidien, et puis nous avons toute l'équipe paramédicale, kiné, orthophoniste, neuropsychologue, psychologue, psychomotricien sur l'EHPAD, ergothérapeute. Et puis, nous avons une équipe médicale composée de médecins, d'infirmières et d'aides-soignantes, plus les agents de proximité que sont les AMP et les aides médico-psychologiques, et désormais qu'on appelle AES. Et puis nous avons également des personnes qui viennent en renfort parce qu'il y a des vacances, parce qu'il y a des arrêts maladie. En tout état de cause, vraiment une équipe pluridisciplinaire qui mêle à la fois les activités, parce que je n'oublie pas quand même, et je commence volontairement par cela, que des personnes doivent avoir des relations sociales et doivent pouvoir être accompagnées dans leur projet, quel que soit ce projet. des équipes en matière sportive que j'ai oublié, puisque c'est quand même un pôle extrêmement important. Nous avons 3 personnes en charge du sport, une professeure APA, enfin sport adapté, et un animateur sportif sur le foyer d'accueil médicalisé, et une professeure APA à temps plein sur l'EHPAD. Donc voilà, c'est vraiment un projet de vie sociale, et c'est l'idée quand même qu'on n'est jamais tout seul. Et puis après, effectivement, la coordination médicale et l'enchevêtrement, en fin de compte, des besoins repérés pour chaque personne, commande d'avoir une équipe professionnelle extrêmement percutante, extrêmement formée. Mais enfin, c'est tout ça, comme ça s'articule. Et puis évidemment, j'ai une équipe de cadres à mes côtés.
Très bien, alors merci pour cette explication. Quelques questions que cela m'amène quand même. Au niveau des équipes médicales, ce sont des équipes qui sont salariées à temps plein ou ce sont des professionnels qui interviennent en libéral mais en complément de leur activité?
Alors on a les deux.
Nous
avons des équipes salariées à temps plein, d'autres qui sont à temps partiel parce qu'elles interviennent sur d'autres établissements médico-sociaux, et puis d'autres effectivement qui font du complément en libéral. Donc on n'a pas de choix en fin de compte pour les équipes paramédicales. Les infirmières sont quasiment toutes à temps complet, les équipes de proximité également, ainsi que les agents de maintenance, les éducateurs et animateurs. Là, on a des temps complets parce que ça nécessite vraiment d'avoir cette disponibilité. Et puis, pour des questions effectivement d'horaire, de planning et de suivi des personnes, il nous faut des temps complets.
Il faut des temps complets. On parlera peut-être au niveau de ces métiers. On connaît la situation dans notre territoire, comme dans beaucoup de territoires, la difficulté d'accès aux soins et la difficulté de recrutement que rencontrent les entreprises. Alors, vous avez coché les deux bonnes cases, vous avez besoin de recruter, et sur des métiers pas forcément évidents, premièrement. Et deuxièmement, pour vos résidents, vos bénéficiaires de services, vous avez besoin de faciliter aussi leur accès aux soins. Comment ça se passe tout ça?
Alors c'est compliqué parce qu'effectivement aujourd'hui nous sommes tout d'abord très clairement un département touché par une désertification médicale qui incontestablement porte préjudice en matière d'accès aux soins. Donc on a pris le parti quand même tout d'abord d'implanter des dispositifs de télémédecine sur nos établissements en matière de dermatologie, en matière de cardiologie notamment. Nous avons des visioconférences avec un certain nombre de centres de référence, notamment l'hôpital Henri Mondor qui est le centre européen de recherche sur la maladie de Huntington, et nous avons des épileptologues qui y sont attachés. Donc c'est plutôt facile d'avoir ce plateau technique assez rapidement.
D'accord.
Mais il n'en demeure pas moins que nous avons besoin de bilan, que nous avons besoin d'expertise médicale qui font défaut. Donc, comme tout le monde, en fin de compte, les personnes se déplacent en lien avec les personnels médicaux et puis les besoins. Et puis, sur les personnes en situation de handicap, comme sur les personnes âgées, parfois, c'est quand même extrêmement difficile, notamment en matière dentaire, en matière tout simplement d'imagerie, puisque certains ont des implants et des prothèses qui sont en acier, en carbone, je ne suis pas technicien, mais en tout cas...
Mais qui sont peu compatibles avec ce type d'examen.
Complètement incompatibles avec certains appareils d'imagerie médicale. Donc, voilà, c'est extrêmement difficile, effectivement.
D'accord. Et sur les recrutements, là ?
Alors, sur les recrutements, on cherche toujours des aides-soignants qualifiés.
En fait.
Donc, voilà. Pour vous dire quand même qu'on est des établissements qui bougeons à APF France Handicap et qu'on a cette culture, en fin de compte, de l'inclusion et de l'autonomie des personnes, c'est-à-dire des choix de leurs relations, de leurs projets et de leurs activités. À titre d'exemple, j'ai des équipes qui reviennent de hier, qui ont emmené des personnes âgées et des personnes en situation de handicap dans le cadre d'un séjour de répit. Donc, ils ont fait plein de choses, du karting, ils ont été dans la mer avec les hippocampes, comme ça ils flottent, enfin ils ont fait du bateau, tout ce que les équipes savent faire, bien mieux que moi d'ailleurs. Et programmé cette année, puisque nous avons eu des fonds très exceptionnels de l'Agence Régionale de Santé, que je tiens à remercier, nous emmenons 7 résidents à Londres. Donc, comme quoi, même en situation de handicap, même en grande dépendance, eh bien, on peut voyager comme tout à chacun. Il faut s'en donner les moyens, il faut en définir les priorités et il faut travailler en amont.
D'accord. Donc, au niveau des recrutements, puisque nous avons peut-être des auditeurs et des auditrices qui sont en recherche d'emploi.
Qui n'hésitent pas à écrire.
Qui n'hésitent pas, donc prioritairement...
Les équipes de proximité, c'est toujours ce que l'on recherche, puisque sur les EHPAD, on sait qu'il y a un turnover important, beaucoup moins sur les recrutements pour sur les établissements et services pour personnes en situation de handicap. Mais bon, on est aussi terrain de stage, on est aussi terrain diplômant, donc si certaines personnes... éprouve une vocation, eh bien, c'est avec grand plaisir qu'on étudiera leur candidature et qu'on verra si éventuellement on peut les accompagner dans ce parcours.
Voilà. Donc, écrire à Jérôme Moreau, voilà. APF France Handicap, et pour nos auditeurs, vous retrouverez toutes les coordonnées utiles sur le site NVS Radio avec le podcast. Je vous propose que nous marquions une pause musicale avant de nous retrouver pour la deuxième partie de cette émission. Que voulez-vous écouter, Jérôme ?
Alors, on va écouter, on s'est préparé, donc on peut le dire. Donc, je vais écouter Mistral Gagnant, en fin de compte, de Renaud. C'est une chanson qui a bercé mon enfance. Voilà, j'aime les mélodies de Renaud, en tout cas certaines. Je trouve que c'est un chanteur engagé et j'aime les personnes qui sont engagées. C'est quelqu'un qui a eu une vie difficile et je trouve que ça fait partie aussi de tout le public que nous accompagnons et que il a su rebondir sans jamais être forcément jugé. Et c'est aussi une ligne éthique que nous devons avoir dans les établissements médico-sociaux. Ne jamais juger les personnes.
Très bien, on se retrouve dans quelques instants.
Les rendez-vous de l'écho du territoire, retour dans un instant. NVS Radio, connecté à votre région.
À m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, et regarder les gens tant qu'il y en a. Parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra en serrant dans ma main tes petits doigts. Puis donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux. Et entendre ton rire qui lézarde les murs, qui sait surtout guérir mes blessures. Te raconter un peu comment j'étais minot et bon mec fabuleux. Compliqué chez le marchand, 45 et minto, caramel à un franc. Mistral gagnant. À marcher sous la pluie, 5 minutes avec toi, de regarder la vie tant qu'il y en a. De raconter la terre en te bouffant des yeux, de parler de ta mère un petit peu. Et sauter dans les flaques pour la faire râler, bousiller nos godasses et se marrer. Et entendre ton rire comme on entend la mer s'arrêter, repartir en arrière. Barre d'antan et les cocos boères, et les frères de loup qui nous coupaient les lèvres et nous niquaient les dents, et les Mistral gagnants.
Retour dans les rendez-vous de l'économie du territoire consacré aujourd'hui à Jérôme Moreau, directeur des différents établissements médico-sociaux d'APF France Handicap. Jérôme, vous nous avez donc expliqué comment fonctionnaient les différents centres que vous dirigez. Nous allons bien sûr dans cette émission parler du handicap, mais de façon un peu différente. Et dans l'actualité, moi j'aimerais que vous nous parliez justement des droits des personnes handicapées, puisque vous avez évoqué tout à l'heure l'importance qu'avait pour vous le lien social pour les personnes qui sont accueillies, mais pas seulement.
Oui, ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, on a une typologie des droits qui est particulièrement bien faite dans les textes. Que ce soit les textes nationaux, que ce soit les textes européens, que ce soit un certain nombre de conventions internationales. Il n'y a aucune difficulté sur le fait que des personnes en situation de handicap aient des droits à égalité avec les autres. J'aime bien cette formule parce que c'est la formule de la charte européenne en faveur des personnes en situation de handicap.
Donc,
des droits à égalité avec les autres. La difficulté, tout d'abord, c'est l'efficience de ces droits.
Oui.
Et l'accessibilité de la société, par exemple, qui aujourd'hui est quand même très problématique. Si vous allez dans la Nièvre, voyez bien que les villes où une personne en situation de handicap à mobilité réduite en fauteuil roulant, qu'une personne touchée par la cécité, vous voyez bien que c'est quand même très compliqué, même s'il y a des progrès qui sont faits, de faire un parcours aujourd'hui, même dans les chaînes de déplacement. C'est-à-dire que vous allez de Nevers à l'Orme, pour une personne aveugle, faut quand même s'accrocher. Quand il faut changer d'une gare routière à une autre, quand il faut, voilà. Donc c'est très compliqué. Et donc on n'a encore vraiment pas mis la société en accessibilité. Je rappelle quand même que la société aurait dû être entièrement accessible en 2015, selon la loi de 2005. Donc on en est très loin.
C'est
dommage parce que c'est quand même trois points qui sont extrêmement importants. Sur le plan de la société, c'est une société accueillante et inclusive. Sur le plan de l'économie, faire des travaux pour rendre l'ensemble des chaînes de déplacement, des transports et des aménagements publics accessibles, c'est un levier quand même pour les entreprises extrêmement important. Et puis enfin, c'est quand même, ça profite à tous.
Oui.
Des trottoirs qui sont extrêmement larges, ça profite aux personnes âgées, ça profite au moment avec les poussettes. Ça, voilà. Donc c'est vraiment une vision quand même extrêmement importante. Et, vous allez à Stockholm, c'est parfait. Hein. Moi j'étais à Stockholm, chapeau, ça fait 12-13 ans que j'y étais, c'était déjà entièrement accessible. Les musées sont intégralement accessibles. Donc voilà, donc c'est la première actualité, c'est l'accessibilité. Ensuite, je pense qu'il y a quand même le droit à la santé. Et on voit bien qu'aujourd'hui, nous sommes en pleine discussion sur ce qu'on appelle la remise en lumière d'une charte qui s'appelle la charte Romain Jacob, qui est donc ce jeune enfant en situation de handicap dont le papa, Pascal Jacob, qui est extrêmement mobilisé, demande en fin de compte que sur tous les territoires, les personnes puissent bénéficier de l'intégralité des soins et des accompagnements, quel que soit le praticien médical, que ce soit les urgences, que ce soit les cabinets libéraux, que ce soit les maisons de santé, en tout cas, que chaque personne puisse bénéficier d'une égalité de soins sur le territoire. Et donc, c'est vraiment important.
Alors, justement, nous sommes dans un territoire, effectivement, où l'accès aux soins est difficile pour tous les habitants.
Tout à fait.
Quels sont les freins supplémentaires que connaissent les personnes en situation de handicap ? On ne les prend pas ou les lieux ne sont pas accessibles ?
Il y a une pluralité de facteurs, effectivement. Tout d'abord, l'accessibilité des lieux est redoutable. Deuxièmement, il y a quand même besoin d'une spécialisation et d'une connaissance de ces publics en situation de handicap qui n'est pas faite et qui est vraiment pour l'instant défaillante, mais j'ai envie de dire dès le départ, c'est-à-dire dès les études de médecine, on voit bien que ça n'existe pas et que... on est au balbutiement, on est au tout début.
Soit on choisit de se spécialiser, soit on ne sait pas.
Voilà, soit on ne sait pas faire. Voilà. Et puis on voit bien quand même que ça fait peur et que sur le handicap, vous avez une pluralité de handicaps, que ce soit le polyhandicap, que ce soit le handicap mental, que ce soit les pathologies psychiatriques, que ce soit le handicap moteur. Donc c'est quand même très difficile pour un seul praticien, s'il n'est pas formé, de pouvoir en fin de compte prodiguer des soins avec tous ces handicaps.
Alors c'est important ce que vous nous dites là parce que on parle de handicap, mais dans une société comme la nôtre, qui est une société où on vit de plus en plus tard, mais pas forcément toujours en bonne santé, on voit bien qu'il y a un certain nombre de handicaps qui sont aussi liés à l'âge. Donc en fait, la société dans son intégralité, je dirais, est concernée à un moment ou à un autre par le handicap. Ne serait-ce que du fait de pathologies qui se développent avec l'âge. Et là, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que dans nos médecins qui sont déjà peu nombreux, Il manque cette formation complémentaire qui leur permettrait de pouvoir prendre en charge des personnes atteintes de handicap. Ça veut dire que c'est quand même un trou, c'est un trou dans la raquette que l'on a dans la formation des médecins, qui n'est plus forcément, au travers de ce que vous nous dites, en adéquation avec l'évolution de notre société.
Oui, c'est une évidence et c'est toute la question, en fin de compte, de la perte d'autonomie et à quel âge on perd cette autonomie. Et on voit bien que certains sont touchés par une perte d'autonomie dès leur naissance, d'autres à 25 ans parce qu'ils ont eu un accident de la circulation, ils se retrouvent tétraplégiques, d'autres à 60 ans parce qu'ils sont touchés par la sclérose en plaques, et puis certains, que ce soit à l'âge 90, 95, 100 ans. Donc c'est pour ça qu'il faut une unité de parcours dans le cadre de la perte d'autonomie, et il faut qu'il y ait une vision, non pas sur décrocher l'enfance, l'adulte, les plus âgés, sur des mécanismes de disposition à prendre, mais il faut avoir vraiment une unité sur le fait, lorsqu'on est en perte d'autonomie, comment est-ce qu'on peut avoir accès à tel et tel droit.
Très bien. Donc ça, c'était un point important à mettre en avant. Si on parle de droits pour les personnes en situation de handicap, mais pas seulement, on parle un petit peu du débat sur la fin de vie.
Alors le débat sur la fin de vie a pris fin avec
vision.
Le débat sur la fin de vie a pris fin donc avec la dissolution.
Oui,
il peut reprendre. Hein, mais
il peut reprendre, effectivement.
Il faut qu'il reprenne d'ailleurs. La question, c'est quelle société, en fin de compte, nous voulons face à la mort. C'était La Rochefoucauld, je crois, qui disait « Ni la mort, ni le soleil ne se regardent en face ». Eh bien, il va falloir, je ne sais pas, le soleil, mais en tout cas la mort, il va falloir la regarder en face.
Alors, vous le mettez sur un plan qui est « Quelle société nous voulons ?»
Ouais.
Vous nous en avez déjà parlé sur l'accessibilité, sur le regard, sur le handicap, la façon d'accueillir les personnes en situation de handicap. Et pour vous, c'est quelque chose de commun aussi sur la fin de vie ?
Alors, c'est tout simplement un moment d'une vie qui doit s'arrêter. Alors, soit nous le choisissons, et c'est ce débat sur la fin de vie, soit nous sommes contraints d'attendre, et dans quelles conditions. Et ce qu'il faut bien avoir en lumière, c'est que ça fait appel à plein de choses. Le médical, l'éthique, la philosophie, les opinions religieuses, les opinions laïques, enfin, tout un tas de choses qui font qu'effectivement, on a des gens qui ont des avis contraires, et c'est pour cela qu'on a un débat. Ce qu'il y a, c'est qu'à un moment donné, il faut aussi comprendre que des gens, et c'est sans jugement et sans opinion politique ce que je vous dis, mais vraiment, que des gens peuvent décider qu'ils en ont marre de vivre pour telle ou telle raison. Et lorsque, en fin de compte, ce sont des douleurs physiques, en fin de compte, je crois que ça ne fait pas trop débat. Les gens, aujourd'hui, sont suffisamment, enfin, la société est suffisamment mature pour dire si les gens souffrent physiquement et si on n'arrive pas à arrêter cette douleur, ou si les personnes sont dans une situation qui est tellement dégradée à leurs yeux que c'est constitué une atteinte à la dignité de la personne humaine, on peut accéder à cela. Le tout est savoir sur le problème psychiatrique, psychique et mental,
c'est
moral.
Effectivement.
Et c'est un débat qui vient se complexifier. Parce que on a toujours eu un problème avec le suicide en France et on n'a pas de solution et on ne sait pas comment traiter cette question. Donc la loi avait prévu d'ouvrir en fin de compte la possibilité, en complément de la loi Leonetti qui pose les refus de soins et en fin de compte la sédation profonde, de pouvoir passer par un acte beaucoup plus actif. Alors après, ça va dépendre du curseur et des critères, mais en tout état de cause, moi je pense qu'à un moment donné, cette décision ne peut pas appartenir uniquement à des tiers et que des personnes peuvent être acteurs de leur propre mort. C'est quelque chose qui est peut-être difficile à concevoir, pour soi-même d'abord, parce que c'est quelque chose, quand tout va bien et qu'on se dit on va être dans une situation de handicap ou très dépendant, c'est quelque chose qu'on ne veut pas vivre, c'est pas automatique d'abord.
Oui.
On a des gens qui sont dans des fauteuils roulants et qui ont une joie de vivre, donc il faut aussi l'entendre. Mais en tout état de cause, je pense que c'est vraiment aux personnes de choisir les conditions de leur propre fin de vie, tout comme d'ailleurs ils peuvent régler leurs funérailles, ils peuvent régler par voie testamentaire qui héritera. Je rappelle que ce sont des droits fondamentaux, tout comme les expérimentations médicales après la mort ne sont pas possibles si la personne n'y a pas expressément consenti, au nom comme du principe d'unité de la personne humaine. Donc on voit bien quand même que toutes ces questions, un peu ces droits de nouvelle génération, sont aujourd'hui en marche et qu'il faut les traiter avec beaucoup d'humilité et surtout ne pas s'enfermer dans des carcans législatifs et réglementaires qui rendraient en fin de compte l'application de la loi impossible.
Qu'est-ce qui, selon vous, fait qu'en France, on a autant de mal à aller sur ce débat, alors que dans d'autres pays, les choses se font de façon plus facile? Je ne suis pas sûre que ce soit le bon mot, mais en tout cas, les choses ont avancé.
Les choses ont avancé d'abord parce qu'on a une conception de la dignité de la personne humaine qui reste liée à une culture judéo-chrétienne très claire, même si je suis assez d'accord pour dire qu'en 1789, on a laïcisé le droit canon. Hein, mais bon, en tout cas, voilà, on est quand même dans cette idée-là. Deuxièmement, on a quand même beaucoup lutté pour l'idée que la vie devait être préservée à tout prix. Et que on avait dans ce principe de dignité de la personne humaine, qui est quand même au sortir de la guerre vraiment l'arc des droits fondamentaux le plus important, on n'a pas voulu penser qu'il fallait faire autre chose. Et puis on a toujours eu un problème avec la mort dans notre société. Alors pourquoi ça, voilà, il faut voir les sociologues, il faut voir les philosophes, il faut voir les historiens. Mais c'est vrai qu'on a toujours eu un peu peur de se confronter face à la mort et de penser que peut-être au bout, il n'y avait plus rien. Et c'est peut-être, en fin de compte, une question d'un peu d'orgueil, quand même, de notre société, qui, voilà, a plutôt privilégié la vie, a plutôt privilégié l'idée de l'acharnement, hein, à un moment donné, avec paradoxalement, quand même, d'autres droits qui sont ouverts très rapidement. Je pense à l'avortement, je pense à tout ça, et qui sont vraiment sauvegardés, qui sont aujourd'hui constitutionnalisés, oui, heureusement. Donc, voilà. Donc, on a plutôt préféré croiser le fer, sans doute, sur ces droits-là, que sur la fin de vie.
D'accord. Je vous propose de marquer une seconde pause musicale dans ces rendez-vous de l'économie du territoire, Jérôme Moreau. Que souhaitez-vous faire écouter à nos auditeurs?
Eh bien, on abîme à la loi sur la fin de vie, I Will Survive,
voilà,
de Gloria Gaynor. Pas... alors, vous allez me demander pourquoi. D'abord, parce que je trouve que c'est une chanson qui est joyeuse, et puis voilà, ça me rappellera pas mal de choses. Et puis, j'aime le disco, j'aime danser, donc je trouve aussi que la vie, c'est aussi la fête, faut pas l'oublier.
Après ce que l'on vient d'évoquer, oui,
oui, mais
bien,
ça fait
partie,
voilà,
partie de la vie.
Et puis, qu'il faut se rencontrer, qu'il faut avoir des relations sociales, qu'il faut s'amuser, et que tout n'est pas que problématique, il faut savoir savourer les moments de bonheur. Et cette chanson fait partie, en tout cas pour moi, et encore une fois, c'est une chanson que j'ai beaucoup écoutée et sur laquelle j'ai fait la fête.
Très bien, bon, on se retrouve dans quelques instants après ce petit moment de bonheur.
Les rendez-vous de l'écho du territoire, retour dans un instant.
retour dans les rendez-vous de l'économie du territoire. Troisième partie de cette émission consacrée aujourd'hui à Jérôme Moreau, directeur des différents établissements médico-sociaux d'FPF France Handicap. Je vais y arriver pour la Nièvre. Alors, cette partie est un peu plus personnelle. On a évoqué un certain nombre de sujets liés à votre activité professionnelle, au handicap. Le petit Jérôme Moreau, quand il voulait faire quoi quand il serait grand?
Oh, je pense que je suis passé un peu par, comme tous les enfants, par différents métiers, par pompier, policier.
Oui, ouais,
J'ai eu une enfance à la campagne, tout d'abord, tout petit. On a déménagé de Nevers et on est allé s'installer à la campagne. Donc effectivement, j'ai eu une enfance un peu préservée d'un certain nombre de choses. D'ailleurs, de manière un peu inconsciente, mais je me souviens, je partais à vélo tout seul, 7-8 ans, ouais, bon, je ne quittais pas, voilà. Et puis, plus j'ai grandi, plus j'ai voulu m'orienter dans le droit.
D'accord.
Et mon idée, c'était de faire magistrat. Mes études de droit ont décidé autrement. Et puis j'ai fait autre chose, mais c'est vrai que très rapidement j'ai voulu m'orienter dans le droit constitutionnel. J'ai toujours été quand même passionné par les institutions et par le débat politique. Donc ça m'a toujours, je me souviens dès la seconde, j'adorais tous ces cours d'histoire politique, d'économie, c'était vraiment passionnant. Et j'ai toujours voulu avoir, quoi qu'il arrive à un moment donné, pour être accroché à l'histoire des idées politiques.
Ça, c'était important pour vous.
Ouais.
Et alors, comment en êtes-vous arrivé à travailler dans le monde du handicap de l'accompagnement de personnes en perte d'autonomie liée à l'âge?
Dans mes études de droit, en fin de compte, j'ai fait droit public, sur droit constitutionnel, droit administratif, les finances publiques locales, tout ce que les gens adorent. Et puis, en tout cas, moi, j'ai une vraie passion pour cela. Et puis, j'ai commencé enseignant à l'université. Après, je suis arrivé collaborateur parlementaire de Martine Carillon-Couvreur. Et là, effectivement, elle a tout de suite été en charge des questions de handicap au sein du groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, puis à la vice-présidence de l'Assemblée nationale. Et enfin, lorsque François Hollande a été élu, il l'a nommée présidente du Conseil national consultatif pour les personnes en handicapées. Donc, voilà comment je suis arrivé, en fin de compte, petit à petit, à glisser vers le handicap. Et j'ai jamais été collaborateur parlementaire à plein temps. J'ai toujours fait quelque chose à côté parce que j'ai toujours su que de toute manière ça s'arrêterait. Donc voilà, c'était
ça,
extrêmement clair.
C'est le jeu des élections. Hein.
Oui. Je l'ai fait 15 ans, mais je n'ai jamais travaillé. Donc j'ai travaillé pour des services de tutelle, collaborateur d'élus, et puis sur des établissements médico-sociaux. Donc voilà comment je suis arrivé sur le handicap. J'ai commencé, j'ai gravi les échelons, chef de service et puis directeur.
D'accord. Donc pas forcément une histoire de vie particulière avec le handicap, comme ça peut être souvent le cas en termes de
sensibilité. Mais moi, c'était pas du tout ça.
Mais c'est la politique, finalement, l'accompagnement des politiques sur des sujets du handicap qui vous a emmené à en faire votre activité aujourd'hui.
Oui, et puis je pense que la question des vulnérabilités, ça serait peut-être le fil conducteur, en fin de compte, de ma vie professionnelle et engagée. Tout le monde sait que je suis également président de France Victimes 58, que je suis vice-président et porte-parole nationale de la Fédération France Victimes et vice-président de la Fédération européenne. Donc, ça fait partie aussi d'un tout, je crois, de pouvoir lutter pour l'efficience des droits et les mettre en application et les mettre en œuvre. Donc voilà, ça fait sans doute partie de la fil conducteur. Alors, je ne sais ni pourquoi ni comment, un psychologue vous dirait certainement mieux que moi pourquoi, mais en tout état de cause, je crois que j'ai une vision de la solidarité et de la fraternité républicaine qu'a toujours été, en fin de compte, sur ce sur quoi j'ai aimé travailler, même pendant mes études de droit, où je suis comme un passionné du 18e. Je trouve que c'est une période extrêmement passionnante, qui bouleverse et qui aboutit à la Révolution française. Mais c'est pas un hasard. Je trouve qu'il y a cette idée d'égalité qui transcende le 18e siècle, avec Voltaire sur le traité sur la tolérance, avec Jean-Jacques Rousseau sur la citoyenneté, avec D'Alembert sur l'accès aux sciences, avec Condorcet sur l'accès à l'éducation, pour ne citer que cela. Eh bien, je crois que ça aussi quand même beaucoup nourri, en fin de compte, mon parcours. Ces lectures-là, en tout cas, m'ont beaucoup, beaucoup frappé. Et j'ai trouvé que ces hommes-là, qui ont risqué leur vie pour des idées, ont été extrêmement courageux. Et peut-être aussi que ça m'a influencé à un moment donné.
Donc d'où votre sensibilité, effectivement, pour l'accès au droit, pour l'égalité.
Tout à fait.
Diriez-vous que notre société aujourd'hui est prête à tout cela, ou qu'il y a un recul par rapport à l'ouverture du 18e siècle?
Alors,
c'est un vaste débat, il nous reste une dernière minute, mais voilà.
Non, la société a fait des progrès considérables quand même, il faut l'avouer quand même. Je dirais pas qu'il y a un recul du 18e siècle, mais il y a des valeurs qui sont plus partagées. Voilà, c'est comme cela. On voit bien quand même que l'idée de l'égalité aujourd'hui, qui est au cœur de la société, est quand même de plus en plus compliquée à mettre en œuvre. On voit bien que le traité sur la tolérance de Voltaire, qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? C'est une vraie question. Pour moi, le 18e siècle nous a amené deux grands points essentiels. C'est l'abolition de l'esclavage, tout d'abord, et l'idée que toutes les personnes sont égales. Et c'est Victor Schœlcher qui le fait en 1848. Et je trouve que ça a été sans doute un des plus grands pas pour l'humanité. Et la deuxième chose, c'est l'idée qu'en fin de compte, pour vivre dans un état de droit, il faut avoir des institutions qui vont protéger les citoyens. Et pour cela, je trouve qu'on y a quand même plutôt réussi, et que sur le plan international, on a quand même des textes qui vont venir protéger toutes les personnes en situation de difficulté ou qui ont besoin d'être protégées. Seulement, le monde va mal. On a élu beaucoup de chefs de guerre où ils se sont autoproclamés, et on voit bien ce que ça donne en Russie, en Israël, en Chine, voilà. Et la guerre fait toujours reculer les droits, toujours reculer l'égalité, et fait toujours reculer, en fin de compte, tous les progrès de l'état de droit qu'on pouvait avoir. Alors encore une fois, je juge pas, en fin de compte, les personnes qui vont rentrer en guerre et ce pourquoi elles le font. En tant que citoyen, je peux le faire, mais en tout état de cause, voilà, je veux pas trop indiquer d'opinion là-dessus, mais en tout état de cause, je pense que à un moment donné, on avait dans le monde Bill Clinton et Barack Obama, on avait Shimon Peres, prix Nobel de la paix en Israël. Le monde allait quand même beaucoup mieux.
Bien. Il vous reste quelques secondes pour nous dire quels sont vos rêves pour vous, pour la société.
Peut-être que le premier rêve, ça serait d'être dans une société où les discriminations n'existent plus. Et que toute personne chez elle plus exactement, dans la rue, dans un pays étranger, n'ait plus à subir de regards qui soient méprisants, tout simplement parce qu'on est en situation de handicap, parce qu'on est âgé, parce qu'on a un enfant, parce qu'on est une femme, parce qu'on est d'une couleur de peau différente, parce qu'on est d'un statut social différent. Je crois vraiment que toutes les personnes sont égales en respect et en dignité. Et ça, c'est mon rêve.
Merci Jérôme Moreau d'avoir été notre invité des rendez-vous de l'économie du territoire.
C'était un véritable plaisir.
Merci, plaisir partagé. Merci à nos auditeurs pour leur fidélité. Je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.
Au revoir.
Chaque mardi, retrouvez en exclusivité sur NVS Radio un acteur économique de notre territoire. Les rendez-vous de l'économie du territoire, c'est tous les mardis à 19h sur NVS Radio.